ah, c'est plus pareil.
Bien sûr.
Il y a le timbre change, vous n'entendez plus, vous n'arrivez pas à analyser du point de vue auditif, mais le timbre change, il y a une différence de sensation, même quand les phénomènes sont extrêmement rapprochés. On a vu des exemples, quand on fait des imitations de jazz au flûte, par exemple, vous faites une descente toute simple, vous la faites en 3-4 coups, comme c'est le cas pour le pinceau, enfin ces oiseaux-là, et même si ça passe très rapidement, à une vitesse où l'oreille ne peut plus discerner les détails dans les descentes, il y a une différence de perception, de sensation. Autrement dit, ce qui nous intéresse au labo ici, c'est en somme ce problème-là, le problème de perception, à partir de quel moment ce n'est plus la ligne mélodique que nous percevons, mais des structures, c'est des timbres, c'est des allures différentes.
Nous percevons en effet des timbres différents. Et alors ce qui est étrange, c'est que ces timbres ne sont pas dus à des harmoniques.
Non,
ils ne sont pas dus à des harmoniques, ils sont dus à des mouvements mélodiques que nous n'entendons pas.
C'est la structure, c'est la
que vous nous avez montré, parce que c'est affolant d'entendre la différence entre l'original et la transposition trois octaves en dessous, parce qu'il y a des quantités de notes que nous n'entendons pas. Pour ce qui nous semble frapper avec un timbre excessivement original, il n'y a pas de timbre ni de frapper, il y a un glissé.
Et si on entend dans un oiseau, si un oiseau fait ceci, ceci, qu'avec un jazz au flûte on fait ceci, oui. Ça peut être extrêmement rapide, mettons qu'il y ait 5 fois cette formule dans un dixième de seconde, mettons 50 dans une seconde, c'est extrêmement rapide, et bien on entend la différence très nettement.
Oui, il y a une différence de timbre.
Tout la même impression.
Il y a une différence de timbre.
Pourtant c'est le même mouvement, seulement il y a une petite interruption entre les deux, et on l'entend. C'est pas du tout la même impression. Il y a aussi dans la fauvette, ou même, vous avez un exemple là sous les yeux, c'est de l'alouette. C'est extrêmement complexe, et en particulier si on s'approche, on voit ceci aussi,
oui,
les notes qui sont
son.
Attaquées de cette façon-là, et eh bien c'est pas du tout pareil que si on l'attaque tout uniment, on a un timbre râpeux, un timbre...
Oui, ça nous laisse un peu rêveur sur les propriétés de l'oreille, vous savez très bien, M. Bussel, on en a beaucoup parlé, l'étude des oiseaux vus sous cet angle-là, et à travers l'oreille des musiciens, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on a bien tout de même le sentiment que beaucoup de musiciens ont repéré des finesses qui à première vue semble impossible à percevoir, d'après ce que nous en savons de la théorie de l'audition.
Je ne voudrais pas vous raconter des choses incompréhensibles, mais dans un son comme ça, c'est assez normal que ça ne perçoive pas la même chose, parce que ce n'est pas un spectre au sens interne, mais c'est une intégrale de Fourier.
Oui.
Pour les physiciens. Par conséquent, votre intégrale prise sur le temps d'émission, quand c'est un temps interrompu, n'a pas du tout le même spectre.
Ah, bien sûr. Bien sûr.
Néanmoins.
Non, mais on arrive tout de même à la conception que ce que nous entendons, c'est une projection dans nos centres supérieurs, et cette projection a l'air de correspondre d'une façon assez voisine avec les sonagrammes, c'est-à-dire avec les analyses que nous arrivons à tirer avec le sonagraphe qui est là. Et on a bien l'impression que dès qu'on entend quelque chose, elle apparaît dans le sonagramme, autrement dit, la représentation visuelle, moyennant apprentissage d'un solfège et évidemment des méthodes de lecture de la chose, vous permettent même de faire un parallèle entre ce que vous entendez et ce que vous voyez. À partir de ce moment-là, on se rend compte justement que les détails de forme que le musicien ou n'importe qui à première vue ne peut plus entendre signifient quelque chose du point de vue perceptif. Autrement dit, nous voyons la forme. La question temporelle va être très délicate, je ne sais pas. M. Bussel pourra sûrement nous répondre sur ce chapitre-là, je suppose.
Je vais vous citer quelques exemples d'oiseaux qui ne perçoivent que la durée entre les signaux. Les signaux peuvent être constitués n'importe quoi. C'est le silence entre deux signaux.
Ah bon, ils perçoivent les silences.
Oui, ils perçoivent le silence. C'est même leur forme pour connaissance de l'univers.
Ah, ça c'est très drôle.
Alors, nos points de vue sont... très différent.
Bien sûr.
En fait. Et j'ai l'impression que je peux vous apporter tout autrement, si vous voulez. Parce que également, quand vous prenez un de ces signaux, vous l'avez montré, et si vous jouez à l'oiseau, vous pouvez triturer le signal de 36 manières, vous pouvez en supprimer 90%, et il réduira toujours de la même manière. Il y a une redondance incroyable, quelle que soit la forme.
Ah bon, oui.
Mais en jouer, je vous dis, il y a un dixième, un centième, n'importe quel, ça marche.
Oui, c'est-à-dire les oiseaux entendent tout à fait, enfin, ils comprennent les choses en droit. Selon vous, les oiseaux ont un langage très rétréci.
Non, mais d'abord, pas tous les oiseaux, n'est-ce pas, on peut parler que par espèce, parce qu'il y a des variations considérables. Les passeurs, ou alors les fragilités, les cornidés, les choses comme ça, tout ça est très différent. Vous
pouvez essayer de voir.
Vous ne pouvez pas extrapoler d'une espèce à une autre. Il y a des espèces qui ont des vocabulaires plus riches les uns que les autres. Mais si vous voulez, la structure musicale, ça c'est une vie de l'esprit humain.
Ah, bien sûr.
Et pour un biologiste, si vous voulez, un physiologiste, ça ne signifie rien en plus.
Oui, c'est-à-dire pour vous, les oiseaux disent quatre choses. Ils disent j'ai chaud, j'ai froid, j'ai faim,
je vais entendre vos domaines. Par exemple, si vous voulez, mais, si vous voulez, l'oiseau utilise, ce sont les signaux pour lui.
Oui, c'est ça.
Ce sont les signaux, comme il a des signaux optiques, comme il a des signaux d'anesthésie, comme il a d'autres signaux. La structure même du signal n'a pas toujours un grand intérêt.
Ah bon, ça c'est curieux.
Surtout la structure physique.
Ah, ça c'est curieux.
C'est qu'il y a des choses qui apparaissent comme ça. Vous voyez, vous pouvez couper les bandes de fréquence. Vous pouvez, par exemple, vous avez cité l'exemple du gorge. La gorge va jusqu'à 25 000 Hz.
Oui, ça.
Bon. Et bien, vous lui donnez 2000 Hz, n'importe où dans cette bande. Là, ça réagit de la même manière.
Ah oui, en musique, c'est pareil. Pour ça, vous pouvez filtrer un signal musique. De la musique, c'est exactement le même problème.
Du téléphone. Oui. Bon, mais vous jouez le signal à l'envers. Mais ça marche encore.
Ah bon?
Vous comprenez, est-ce qu'il y a une sémantique, est-ce qu'il y a une syntaxe? Ça, c'est un des problèmes que nous étudions. Et tout le monde nous est très déçu.
Oui, merci.
Alors que dans vos constructions et dans la construction du langage humain, si les sont humaines, il y a une sémantique, il y a une sémantique.
Oui,
même dans les langages informatiques, et vous, notre point de vue est très variable.
Oui, nous avons un objet, mais nous n'avons pas le même point de vue, alors forcément, vous ne pouvez pas être d'accord si nous regardons un objet quelconque.
Je ne suis pas d'accord.
Ah si?
Non, nous avons d'autres manières de concevoir l'ensemble du problème, si vous avez d'autres intérêts divers. Mais il y a des choses, évidemment. Par exemple, vous avez cité, j'en viens toujours au président, vous savez, prenez un seul signal qui a une sémantique déterminée, qui est le signal de défense territoriale. Pendant un quart d'heure, l'oiseau va chanter, et si vous enregistrez avec un hexagramme, vous ne retrouverez pas une seule fois le même motif dans un même ordre. Mais vous pouvez prendre n'importe quelle partie de ces 14 minutes et en jouer une dixième de seconde. Il y aura ce signal très court, aura la même valeur que les 14 minutes. Oui, en fait, dans ce que vous voyez, on vous prend au hasard dans un répertoire de structure neuromusculaire, si vous voulez, qui commande une inflammation, on prend au hasard comme ça des champs. Si je vous dis.
Oui, bien sûr.
Mais il y a des écoles qui ont des choses à dire.
Oui, bien sûr, nous ne prétendons absolument pas vider la question. On a posé
non,
un problème.
Non, moi non plus, je ne ferai surtout pas.
On essaie de voir
dans nos domaines qui sont des domaines.
Monsieur, mais si vous dites à quelqu'un, allez-vous-en, il s'en va, et si vous lui prouvez par des arguments philosophiques compliqués pendant une demi-heure qu'il doit s'en aller, il s'en ira aussi. Ça revient au même, en effet, mais il y a une différence dans la façon de le dire. Mais il n'empêche que le Rouge-Georges qui défend son territoire pendant une demi-heure le défend d'une façon admirable.
Il le défend aussi bien en chantant.
Mais c'est-à-dire que l'intrus comprend qu'il s'agisse d'une demi-heure ou de quelques secondes.
Il n'y a pas d'intrus, il émet sans stimulus externe.
Pardon ?
Il émet sans stimulus externe.
Ah, il n'y a rien qui le pousse.
C'est-à-dire qu'il suppose qu'il peut y avoir.
Non, non, il est dans phase d'activité sexuelle hormonale qui amène le déclenchement du chien d'une manière susceptible. Je suis désolé. C'est terre à terre. Et j'ai toujours, à mes étudiants, j'en prends un exemple dans le domaine des stimulus optiques qui est extrêmement, vraiment un des plus extraordinaires que je connais, c'est le comportement sexuel chez le dindon. Bien, chez le dindon, vous allez voir que nous allons envoyer à l'acoustique, mais l'image est vraiment extraordinaire. Chez le dindon, la femelle déclenche le comportement sexuel du mâle en s'accroupissant à terre, et le mâle monte sur la femelle et la copulation a lieu. Alors, si vous prenez un empaillé de dindon, de nain, vous le mettez à terre, eh bien, le mâle va copuler avec l'empaillé. Alors, on sépare l'empaillé en deux parties, c'est-à-dire une tête et puis un corps. Alors, vous retournez le corps par rapport à la tête. Le dindon va copuler à l'envers. Ça, c'est-à-dire, il est toujours derrière la tête, mais il ne s'occupe pas du corps, il ne sait pas quel est le bon côté. Et puis, alors après, vous ne prenez que la tête. Et bien, le dindon va copuler par terre en se mettant derrière la tête. Vous, le signal global de la femelle accroupie, un signal optique, sexuel, c'est la position de la tête. et c'est un réflexe hormonal. Vous prenez un dindon mâle de 3 jours, éclos depuis 3 jours, vous lui injectez de l'hormone mâle, vous mettez une petite tête empaillée dans sa cage, et bien ce dindon mâle de 3 jours va copuler par terre. En étant aligné derrière la tête empaillée. Voyez-vous, et bien dans le signal acoustique, nous avons des choses qui sont de même nature. Nous recherchons toujours quelle est la partie effective du signal, et on s'aperçoit qu'elle est extrêmement minime par rapport à toute la complexité physique que nous mettons en évidence avec nos médecins.
Ah oui, merci.
Mais évidemment que ça manque.
Mais j'imagine, monsieur, que si on nous mettait en rapport avec un individu habitant dans un monde à 4 ou à 5 ou à 6 dimensions, nous aurions des réactions à peu près aussi idiotes que celles d'une âme. Nous mettons ce malheureux, vous mettez ce malheureux en face de choses absolument impossibles.
Non, puisqu'il a un comportement normal.
Vous mettez des choses qui sont en dehors de lui.
Non, je ne pense pas, puisque nous analysons ce phénomène, nous obtenons la réaction.
Mais vous avez des possibilités d'analyse qu'il n'a pas.
Du récepteur qui sont parfaites. Si, parce que la réponse de l'animal est une réponse presque bouton, ce sont les réponses innées, les réponses réflexes. Les réponses réflexes sont les réponses de base de tout être vivant. Et c'est pour ça que c'est intéressant de travailler sur elle. Parce qu'en fait, même chez l'homme, nous avons toute une base de signalité et de comportement humain au fond de nos structures soi-disant éduquées.
Mais l'origine et le but des signaux acoustiques des oiseaux, en somme, n'intéressent pas du tout les musiciens, je pense, en gros. Ça les intéresse du point de vue.
Si nous sommes obligés de connaître les cris pour pouvoir attribuer les chants.
Ah bon, ah oui, alors ça c'est monsieur Massard,
c'est indispensable.
Oui, mais alors ça c'est très difficile parce que vous...
Parce que vous avez dans le cas des fauvettes par exemple, les fauvettes céphales et passerines dont les chants se ressemblent. Si on n'a pas entendu le cri et qu'on n'a pas vu l'oiseau, c'est extrêmement difficile de faire le discernement.
Pour les pouillots, c'est assez caractéristique.
Pour le pouillot, par exemple, c'est les deux. Si on les voit, on ne peut pas le discerner.
Il faut identifier le chant, n'est-ce pas? Vous voulez l'identifier du point de vue de la psychophysiologie, c'est-à-dire savoir quelle est la signification du chant, c'est-à-dire quelle est la partie du chant, parce que ce que vous nous avez donné, là, par exemple, sur le rouge-gorge, j'ai au moins 5 types de signaux différents.
C'est un exemple au hasard.
Vous avez le champ d'alarme, vous avez le champ de dominance territoriale, vous avez le champ d'appel de la femelle, vous avez la reconnaissance des parents des jeunes, n'est-ce pas? C'est ça que nous cherchons à identifier, c'est très difficile. Mais je voudrais quand même vous donner un exemple pour vous montrer qu'il faut quand même être très prudent, ne pas s'avancer trop déjà dans ce domaine. Vous avez une chasse qu'on appelle la chasse à la pipée, pour attirer des jets. Ben, le cri de jet, vous l'enregistrez avec un magnétophone, ça monte très haut, ça monte autour de 25-30 000 fois. Vous le jouez avec le meilleur type de haut-parleur que vous puissiez avoir, c'est-à-dire le ionophone avec toutes les basses et... Bon. Jamais vous n'arrivez à tirer un jet comme ça. Alors que si vous prenez un jet à la main, vous faites crier, vous faites crier. Ils n'ont pas encore, ils nous ont rien là-dessus depuis des années, ils n'ont pas encore trouvé ce qui ne va pas dans le magnétophone. Alors que si vous prenez les autres très voisins comme la pie ou le corbeau, alors là vous pouvez leur envoyer n'importe quoi avec des parleurs de gare, ça marche. Et pourtant ils sont de la même famille. Qu'est-ce qui passe pas si nous ne savons pas?
Oui, évidemment, c'est bizarre.
Enfin, c'est un petit exemple pour montrer que l'oreille des oiseaux a quand même des subtilités qui échappent encore beaucoup.
Est-ce qu'il entend avec l'oreille ou est-ce qu'il entend avec les pattes? C'est une question que tu poses.
Ah ben avec les pattes, ils ont un organe qu'on appelle l'organe de l'air, puisqu'il est un organe qui perçoit les vibrations par les pattes, si tu veux. Oui, c'est un organe pour les perceptions des basses fréquences.
Les basses fréquences.
Vibrations de basses fréquences.
Mais alors, on s'explique pourquoi, même si leur oreille est relativement incapable de percevoir des fréquences aiguës d'après la structure vaguement.
Non, si, elles peuvent percevoir des
fréquences. Ça va tout de
même. Oui,
ah, d'accord.
Oui. Mais une grande partie des données faites par l'électrophysiologie sont à revoir parce que la plupart des planteurs d'électrodes qui font de l'électrophysiologie ont travaillé avec des haut-parleurs dont ils ne connaissaient pas la corde de réponse. Et il y a des kilos de papier à mettre aux ordures dans ce domaine.
Vous nous avez dit tout à l'heure qu'on devait couper une grande partie du signal. Est-ce qu'on peut finalement se faire entendre de haut-parleurs à oiseaux uniquement en une façon, si on peut dire? Vous pouvez couper toute la partie auditive.
Pour certaines espèces, oui.
Et vous faire entendre, sans gêner les voisins, on peut donner des ordres.
Oui, on peut marcher comme ça. Mais, si vous voulez, étant donné que la portée d'une chanson dans l'air est très limitée, ce n'est pas un expérimental.
Si on peut faire entendre les bandes de fréquence assez étroites aux oiseaux, en général, ceux-ci ont une densité différentielle assez faible. Ça reviendrait à dire qu'ils ne sont pas tellement sensibles à la note pour pouvoir. Mais uniquement
à l'enveloppe électrique.
Ah, j'entends.
Oui, c'est ça les
enfin, mais je dis, parce que je suis très prudent, ça dépend. Des
oui, oui, bien sûr. Nous
ne pouvons pas extrapoler une espèce de bruit. Surtout que vous avez des oiseaux qui sont sous l'eau partiellement, n'est-ce pas, qui vont aussi fortement des signaux sous-marins.
Peut-être remercier mademoiselle de son exposé, c'est pédagogiquement très intéressant, quoi que ça souligne les remarques générales.
C'est excessivement intéressant et moi je trouve que c'est affolant d'entendre la différence entre la transposition à deux octaves et la réalité. Parce qu'il y a tellement de choses que nous n'entendons pas.
Ça change le caractère complètement, oui.
Je suis un peu déformée d'ailleurs, et personnellement, quand j'entends Rossignol, je trouve qu'il va trop vite.
Ah oui, on ne peut pas suivre.
On ne peut pas l'apprécier et le suivre, alors que lorsqu'on l'entend deux fois moins vite, même quatre fois moins vite,
il devient plus
intéressant. On entend un nombre de choses inouïes qu'on entend.
Vous savez que c'est par ces procédés que quand on entend des signaux de dauphins, on arrive sur des dauphins adressés à reconnaître des imitations de l'humain en ralentissant la
D'ailleurs, on a un peu l'impression que les oiseaux se différencient uniquement par une question de vitesse. Quand on transpose les oiseaux, on retrouve un oiseau un peu aigu transposé, ça devient du merle. Ou alors le merle transposé,
oui.
Ça devient...
Oui,
j'en faisais ça un peu au hasard. Mais il suffit de modifier la vitesse et on passe d'une espèce à l'autre. Parce que,
oui, c'est très drôle.
Enfin, c'est un peu l'impression que j'ai eue en faisant ça.
Chez les insectes, vous avez des choses tout à fait remarquables également.
Il est évident que ce que pensent les oiseaux entre eux, ça c'est un problème qui nous dépasse.
Et si vous posez la question à l'échelle humaine.
Si on la pose à l'échelle humaine, il n'y a que la transposition qui nous permet d'apprécier en gros ce qui se passe à l'intérieur d'un champ. Et je crois que le véritable intérêt, c'est d'avoir maintenant les moyens de photographier. On peut photographier n'importe quel signal et en obtenir une représentation qui est quand même bien significative, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on arrive à. Si quelque chose change en cours de route, on le voit changer sur le graphique, et ça c'est une chose importante. À partir du moment où on superpose une portée, ça devient amusant, parce qu'on voit vraiment qu'il y a des oiseaux qui sont musiciens, et il y en a d'autres qui ne sont pas. Le moineau, il fait... Et puis c'est terminé, il fait un accent circonflexe, et puis il est content avec ça. Il y en a d'autres qui varient. Alors, vous aviez fait quelques remarques, je crois, sur le chant du rossignol, enfin, sur la répétition, au bout d'un certain temps, il recommence quand même à utiliser le même...
Oui, ce qui m'étonnait, au début, je pensais que le rossignol avait quelques formules, et puis qu'il invertissait les formules, qu'il construisait un chant en prenant une formule, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Or, j'ai remarqué, d'après ce que j'ai entendu, que c'était la formule dans son ensemble qui était construite, et qu'en général, il répétait les formules telles quelles, dans son ensemble. Et on les retrouve dans la bobine que j'ai enregistrée, on retrouve 4-5 fois chaque formule, une des 8 formules que je vous ai montrées. Mais textuelle, exactement avec le même rythme.
Par exemple, ça, on le retrouve.
Par exemple, la première que vous avez entendue, on la retrouve un grand nombre de fois. Et on ne retrouve pas la fin avec autre chose. Ça forme un ensemble, un tout.
Ah oui, c'est un somme, c'est une forme pour lui, c'est une
macroforme, entière, oui,
quoi, c'est une forme entière qui répète, ce n'est pas
c'était
la.
C'était peut-être pour un rossignol détail. Donné, enfin, c'est
oui,
je
bien
sais
sûr,
pas,
on
tous les rossignols.
Nous n'avons pas eu le temps de voir.
Je ne connais pas assez.
Il faut faire très attention aussi qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui imitent.
Ah oui, certainement.
Qui incluent, dans leur jeune âge, qui incluent des chants d'oiseaux d'autres espèces. Il y a un petit effet qui est connu dans la littérature ornithologique qui imitait 17 espèces différentes d'oiseaux dans ses signaux.
Ah, vous en avez parlé dans les ouvrages langage et communication, je crois.
Oui, on peut s'en aller dans quelques plusieurs. Si oui, et surtout chez les oiseaux chanteurs, il y a beaucoup d'imitations dans ces chants-là.
Oui, mais alors là, il y a une question. S'ils arrivent à imiter, c'est qu'ils perçoivent quand même la forme générale.
C'est un psittacisme. Ce que nous appelons du psittacisme, c'est un mot. Si vous voulez, un petit perroquet qui imite ou un dauphin qui pitonne.
Ah oui. Oui, mais il faut qu'ils le perçoivent pour pouvoir imiter.
Est-ce qu'un bébé qui apprend les premiers mots qu'il entend exactement comme un oiseau, est-ce qu'il perçoit ? Il perçoit une forme, il perçoit un corps.
Oui, bien sûr.
Non, mais comment expliquer ça ? C'est bien difficile.
Mais les oiseaux n'imitent jamais exactement. Les oiseaux qui s'imitent entre eux d'une espèce à l'autre ne s'imitent pas exactement. C'est une recréation avec un autre mode, un autre timbre et d'autres rythmes. Il y a toutes les différences. Un étourneau qui fait l'orgue ne chante pas comme le lorgnon.
Je ne suis pas malheureusement musicien, mais quand je prends certaines imitations d'oiseaux, je suis incapable de distinguer tout un gramme Et quand j'envoie les imitations sur un autre oiseau, l'autre oiseau est incapable de les distinguer. Mais moi, je ne suis pas musicien, je n'ai pas d'oreille. Je suis même un peu sourd professionnellement. Mais les musiciens ont des oreilles beaucoup plus fines que nous. Mais il y a une chose où les musiciens pourraient peut-être nous aider. Et vous, en tant que biophysicien, si vous voulez, quand nous trouvons bon, ces sonogrammes, nous sommes dépourvus de vocabulaire pour pouvoir les analyser. Vous avez utilisé des quantités de termes tout à l'heure qui me paraissent très beaux, la tessiture, le grain, tout ça. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Et ça pourrait peut-être nous aider si nous avions un vocabulaire commun, si vous vouliez bien vous pencher sur nos problèmes et nous donner des idées de l'interprétation de formes de signaux, parce que pour nous, on a des fréquences, on a des amplitudes, des temps, on a des répétitions de formes, mais ça va bien plus loin. La description d'un sonogramme est un truc sur lequel nous séchons.
Il y a les musiciens, c'est tout prêt à vous fournir tous les renseignements de ce point de vue.
Je souhaite que les musiciens viennent à nous, enfin nous irons volontiers leur porter nos problèmes s'ils veulent bien s'y intéresser.
Je peux vous faire une typologie des signaux de ce point de vue-là, et qui est très significatif, puisqu'il y a eu des musiciens qui se sont occupés de la question, et qui ont essayé la notation, je crois que vous avez trouvé quelques références d'ailleurs chez M. Bussnell, de personnes qui ont essayé de faire des sonogrammes à l'oreille, alors c'est très très grossier, quoi, à côté de ce qu'on obtient maintenant. Alors il y a tout de même une espèce de vocabulaire de solfège qu'on peut établir en partant des sonogrammes comme base,
oui, on retrouve comme finalement document objectif.
Pardon.
Ce sont toujours les mêmes formes.
Ce sont toujours des formes identiques. Vous trouvez toujours un certain nombre d'inflexions, enfin, pour les oiseaux que nous avons pris là. Mais il y a tout de même une caractéristique, je crois que c'est cette notion de pente.
Et c'est justement là la difficulté, c'est de noter cette pente. Parce que le même glissando fait avec une vitesse différente, ça ne produit pas du tout la même impression sur l'oreille.
Oui.
Et ce qui est difficile, c'est de noter cette vitesse avec laquelle on fait, par une notation musicale, une notation rythmique, je ne sais pas comment il faudrait faire, mais ça c'est vraiment très difficile à faire.
Remarquez que nous avons tourné les difficultés en publiant ces sonogrammes.
Oui, évidemment.
Mais on ne peut pas publier des atlas de sonogrammes, on ne sentirait pas.
Merci. Il est évident que ce que fait le musicien quand il fait quelque chose à partir de chant d'oiseau, une transposition, alors ça peut complètement, c'est complètement différent. Je pense que M. Messian sera bien mieux placé que quelqu'un pour nous en parler de ce point de vue-là, je ne sais pas.
Et également, alors, du point de vue de la physique, si quelqu'un pouvait nous donner un sonogramme, la manière de quantifier un sonogramme, physique, ça nous avancerait énormément.
Moi, je crois que les musiciens sont très avancés du point de vue de la perception des signaux. Le malheur, c'est qu'ils n'ont pas le vocabulaire, la plupart du temps, le vocabulaire des physiciens.
Ah oui,
alors, il y a une difficulté que nous essayons de résoudre au gamme, comme vous voyez, en groupant des personnes qui ont divers points de vue, et je crois que ça sera très efficace. Les musiciens sont habitués à écouter des choses. J'ai fait un certain nombre d'expériences avec des élèves du conservatoire, par exemple, l'année dernière, on a appelé des cordes de piano, des phénomènes qui paraissent absolument imperceptibles. Il y a des gens qui vous disent tout de suite, ah, il y a ceci, ben, ce sont des musiciens
et
qui...
Mais l'oreille est le meilleur instrument d'acoustique que nous connaissions, malheureusement, il n'est pas...
Il est efficace.
En appuyant sur un bouton.
Mais alors ça, c'est un autre problème, il faudra évidemment que les musiciens soient familiarisés avec le vocabulaire des physiciens, inversement, je crois que ce n'est pas impossible.
Vous êtes le meilleur.
Ah non, c'est mademoiselle là qui est musicienne professionnelle et qui sait ce que c'est qu'un sonagramme, etc. Et je crois qu'il y a un point de jonction entre les deux qui me semble important de ce point de vue-là. Je ne sais pas, l'impression que ça peut faire par exemple à M. Messian de voir la forme de certains oiseaux entendu, vous la connaissez bien, vous voyez un certain nombre de détails qui sont quand même très fins, que vous n'arrivez pas à percevoir, je pense que c'est impossible.
Il y en a beaucoup que j'ai reconnu en partie avant que vous annonciez le nom de l'oiseau.
C'est-à-dire, dès que la porte est
j'ai
en dessous...
J'ai été émerveillé de l'exactitude de votre...
C'est ça, ce sont des noms, mais précis. Je pense que c'est ça le problème, alors là, c'est un problème...
Est-ce qu'un musicien perçoit la phase dans un signal?
Ça, c'est un problème à résoudre, on a raconté beaucoup de choses là-dessus, mais je crois qu'il y aura des expériences très intéressantes à faire au conservatoire avec des gens qui sont entraînés.
Parce que chez moi, j'ai qui perçoit les phases et il est tout seul à les percevoir. Autrement, c'est un artefact. Mais les animaux, nous avons l'impression qu'ils ne perçoivent pas la phase.
Ah oui.
C'est une impression, nous ne pouvons pas mettre ça en évidence de manière objective, actuellement, parce qu'il manque d'abord la perception par nous-mêmes.
Oui, bien sûr.
Et si des musiciens veulent venir faire l'expérience avec nous, ça nous intéresse.
Moi, je crois que vous pourrez trouver des réponses qui vous surprendront probablement, je crois, à la finesse d'abord de l'oreille de ceux qui sont attirés par la musique, de toute façon, à l'origine. Là, et deuxièmement, surtout à leur entraînement de percevoir, d'entendre des finesses que le commun des mortels n'entend absolument pas. J'ai remarqué de très nombreuses fois des gens qui détectent des phénomènes. Moi, je suis un petit peu musicien.
Si je pouvais proposer à votre groupe, au cours du prochain prochainement, l'année prochaine, je vais venir à notre labo et qu'on fasse une expérimentation avec vous.
Ça serait formidable.
Vous, et bien, ça nous intéresserait beaucoup.
Ça serait formidable. Monsieur Blonde, là, nous a envoyé des musiciens ici, des clarinettistes. Et je vous donne, je peux vous affirmer que ces gens-là, moi, ils me disaient, ah, il y a quelque chose, je vais vous faire ça. Alors pour s'expliquer, c'est impossible, mais quand vous comparez les sonogrammes, quand vous comparez les analyses, il y a bien une différence et ça correspond bien avec ce qu'ils disent. Seulement, ils n'ont pas le vocabulaire pour dire de quoi il s'agit. Mais on arrive à s'entendre, et je crois que certains musiciens, les instrumentistes ou les compositeurs, ce sont des sujets extraordinaires, mais...
je voudrais demander à M. Sestrin qu'il y a autre chose. Est-ce que vous ne pourrez pas envisager en tant que musicien d'avoir des gens qui s'intéressent à faire un contre-quai? Un contre-quai, un contre-sonogramme, c'est-à-dire... Ça existe, j'en ai vu aux États-Unis déjà, mais il est assez compliqué, une armoire, un meuble. Si vous voulez, on peindrait la musique, on peindrait les traces, si vous voulez, en fréquence, en intensité, en temps, et on en ressortirait quelque chose. Et ça nous rendrait énormément de service pour le studio de synthèse.
Vous pouvez répondre sans difficulté, puisque
c'est en cours. Enfin,
vous en faites un
marché, un marché en cours.
Merveilleux, merveilleux.
Ah, je ne sais pas.
C'est pas d'accord.
Enfin, en principe, certainement, ça devrait aboutir à un début de marché, si vous voulez.
Les sonogrammes sont là.
Quelques expériences.
Il suffira de passer les sonogrammes pour voir si ça donne de l'oiseau.
Oui, ça c'est à l'étude. Les têtes de lecture ne sont évidemment pas immédiates, c'est là le problème.
Nous avons commencé d'en faire un au laboratoire, mais nous avons équipé par autre chose.
Enfin, matériellement, nous n'avons pas les moyens ici, puisqu'il faut de l'électronique à outrance, mais on l'a sous-traité.
À ce moment-là, les musiciens viendront avec un pinceau et de l'encre de Chine. Mademoiselle Castellango, vous faites du pinceau et de tout ce que vous voulez tout de suite, et vous avez la machine. Et vous en avez sûrement aussi.
Ah oui,
Monsieur Philippot vient avancer avec un pot de peinture, et puis ça ira très bien.
Oui,
on fera tout ce que vous voudrez à ce moment-là.
Effectivement,
on fera aussi bien de l'or que de la musique concrète, que tout ce que vous voulez, avec un pinceau. Et la preuve est faite, c'est possible. Le vaudeur est une chose grossière, mais évidemment, on ne peut pas utiliser autant de filtres qu'il faudrait pour la finesse de pouvoir séparateur de l'oreille, mais il y a d'autres solutions qui sont en cours. Enfin, on en parle depuis six mois.
Dans un an, on pourra en parler, pas sérieusement. Je crois qu'il y aura un petit peut-être imparfait, mais enfin, au moins. Il permettra de faire des expériences.
Puis maintenant, vous avez commencé d'en faire un, mais je crois qu'il
oui,
il y a un certain nombre de difficultés.
Ce n'est
pas immédiat, mais enfin. C'est...
Mais à ce moment-là, on transforme des formes visuelles en formes auditives à partir du moment où on connaît la correspondance qu'on a étudiée au préalable avec le son. Il est évident que, même si c'est relativement grossier, il est évident que ce sera intéressant parce que les studios de musique expérimentale se fatiguent à faire de la synthèse en additionnant des sinusoïdes, etc. Ça, c'est beaucoup plus subtil et vous arrivez à faire de la musique. Ce n'est plus tout à fait pareil. Avec les inflexions, les formes, il suffira d'artistes peintres.
Un point de jonction.
Je crois qu'il y a, nous travaillons forcément la même chose, c'est-à-dire les objets sonores. Vous regardez ça de ce côté, vous dites les doigts sont comme ça, moi je dis les pouces de l'autre côté, on n'est pas d'accord, mais enfin, il est certain que c'est le même objet. Quoi. C'est une question de point de vue et nous avons le traitement. En réalité, nous nous occupons d'instruments de musique, mais les oiseaux sont quand même de bons musiciens, enfin, je ne sais pas, on en parle de ces
fois.
Et je pense que la conclusion, parce que c'est strange, pourrait d'ailleurs tirer une conclusion générale.
Non, je voudrais surtout remercier les personnalités qui ont bien voulu participer à la réunion et à la discussion. Je répète que notre point de vue était non pas d'instruire les gens, on n'a pas cette prétention, mais de faire le pont entre les musiciens, les physiologistes, les physiciens. Enfin, c'est quelque chose qui manque la plupart du temps et je crois qu'il y a beaucoup à apprendre les uns des autres. C'est le but de notre petit groupement. Alors, les opinions sont également bien reçues et les discussions appréciées. Je vous remercie encore.
Je me suis permis de vous écrire, mais si ça vous intéresse un jour de voir comment fonctionne l'appareil, il y a pour un quart d'heure.
Je vous remercie, je n'ai pas du temps d'avoir dans votre tête. J'arrive de Divonne-les-Bains, je vais donner un concert. Voilà.